Le thème de mon message ce matin, c'est la certitude dans l'attente. Et j'aurais une question à vous poser. Qui aime attendre dans la vie? Je pense que finalement, il n'y a pas beaucoup d'entre nous en fait qui aimons attendre. Il suffit de voir un peu nos comportements et on peut s'analyser soi-même. Quand on attend, par exemple, dans le cabinet médical qui est plein à craquer pendant 1 heure parce que le médecin est en retard, eh ben, on n'aime pas parce que ça contrecarre nos plans, parce qu'on se dit bah, pourquoi il est en retard, qu'est-ce qui se passe, j'avais des choses à faire derrière, etc. Et déjà rien que ça nous irrite, ça nous frustre. Et moi, en fait, bah, comme j'aime pas attendre, comme vous, bah, souvent, en fait, j'appelle le médecin, j'appelle le secrétariat pour savoir en fait combien de temps le médecin aura de retard. Comme ça, quand par exemple je suis avec Julia, je me dis bah, plutôt que d'attendre 1 heure, bah, au moins je peux attendre à la maison et arriver et moins attendre dans le cabinet médical. Quand on attend, par exemple, derrière un bus ou derrière une auto-école, une voiture qui on voit que c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à conduire, bah, finalement, on est là en disant, bah, alors, qu'est-ce qu'il fait? Bah, là, il pourrait rouler un peu plus vite, et puis le rond-point, il pourrait aller un peu plus comme ça. Et finalement, en fait, ça vient tout de suite nous titiller dans la chair, parce qu'on n'aime pas attendre, c'est humain. On aime bien l'instantané, on aime bien que nos plans soient carrés, on aime bien, en fait, que les choses arrivent comme on les avait prévues, tout simplement. Et finalement, bah on voit en fait que par ces simples attentes à la boulangerie ou autre, bah en fait on est vite irrité, on peut être vite frustré. Et finalement, après, on prend tous un peu la poker face et quand on c'est à notre tour, on dit bonjour, ça va? Oui, on est avec un grand sourire. Si le médecin s'excuse, on dit bah oui, c'est pas grave. Mais en fait, parfois, on est un peu frustré, irrité et on se dit bah zut. Et finalement, en fait, là, je parle des choses qui sont de la vie courante, qui sont des choses, on va dire, simples. Et on a la certitude de l'avoir. Quand je vais chez le médecin, je suis dans la salle d'attente, je sais que le médecin est à côté, et à moins qui se volatilise, mais en fait, je sais que je vais passer et que j'aurai mon tour. Quand je vais à la boulangerie, je sais que je vais avoir le droit à mon petit pain, à mon croissant. J'ai la certitude. Quand je suis sur la route, j'ai la certitude d'arriver quand même à bon port, sauf si je suis dangereuse en route. Mais on a des certitudes. On sait que c'est là. On sait que c'est juste à côté de nous, c'est à la portée, mais on doit juste attendre un petit peu, ou parfois un peu plus longtemps. Et ça nous irrite, ça nous frustre. Et finalement, qu'en est-il quand on doit attendre pour des choses, on va dire, plus importantes de la vie? Quand on attend après son mari, quand on attend après son épouse, quand on attend après l'enfant qui ne vient pas, quand on attend après un travail où ça ne vient pas comme on le voudrait. Quand on attend après une guérison, après une consolation, quand on attend une réconciliation dans la famille avec des amis, quand on parle de toutes ces attentes-là, qu'en est-il? Et finalement, le temps passe, donc ça passe, le temps passe, c'est cool, et on attend, et on attend. Et finalement, en fait, ce qu'on avait pour idéaux, ce qu'on avait pour rêve, ce qu'on avait en fait pour projet tout simplement. Et bien là, en fait, plus le temps passe quand c'est des jours, des mois, des années, finalement, ce qui était comme un projet et comme une certitude, ben, peut devenir un doute et peut se transformer en interrogation en disant, mais est-ce que je vais un jour me marier? Est-ce que je vais un jour enfanter? Est-ce que je pourrai un jour faire le travail pour lequel j'ai étudié? Est-ce que je pourrai un jour recevoir cette consolation? Est-ce que je pourrai recevoir un jour la guérison? Et finalement, notre cœur, comme ça, jour après jour, année peut-être après année, pour ceux qui attendent depuis des années, eh bien, est remis comme ça. Notre cœur est labouré. Et la question vient se poser en disant, est-ce que ça se produira? Et là, on quitte le champ, finalement, des certitudes. On se demande si un jour ça viendra, si un jour ça se passera. Et finalement, dans ces temps d'attente, eh bien, on peut être déboussolé. On peut être dans ce brouillard, dans cette confusion, en disant, mais pourquoi suis-je ici-bas? Pourquoi est-ce que moi j'attends? Pourquoi est-ce que je vois d'autres passer devant moi? Et c'est franchement, je pense, tout le monde s'est déjà posé ces questions-là. On s'est déjà tous dit ça, on a déjà tous vécu ces temps d'attente qui nous plongent dans cette confusion, parfois dans le désespoir, parfois même dans la honte ou dans l'opprobre. Et nos cœurs passent comme ça. Au pressoir, nos cœurs sont labourés durant ces temps d'attente. Et j'aimerais nous rappeler ce matin que nous avons, comme nous l'avons chanté, que nous avons un grand Dieu. Un Dieu qui est bon et un Dieu qui veille sur sa parole. Et ça, c'est ça, notre première certitude que nous pouvons avoir durant nos temps d'attente. Et je veux vraiment en parler humblement parce que je sais que, et avec beaucoup de compassion, parce que c'est vraiment le cœur de Dieu de ce matin. Et ce que j'avais sur mon cœur, c'est que Dieu veut vraiment fortifier, consoler, que les têtes soient relevées ce matin durant les temps d'attente que nous pouvons tous vivre. Moi, j'ai vécu des temps d'attente que vous connaissez, mais j'en vis encore d'autres. Et nous sommes tous comme ça, dans des temps perpétuels d'attente où nous avons l'accomplissement pour des choses et nous en attendons d'autres. Et si je vous demandais ce matin, qui attend quelque chose encore de la part de Dieu? Je pense que tout le monde pourrait lever la main. On a tous des temps d'attente dans nos vies qui sont plus ou moins durs, plus ou moins longs. Et ce matin, je voudrais que nous nous encourageons en nous rappelant que Dieu veille sur ses promesses et que Dieu veille sur sa parole. Et j'aimerais que nous prenions Ésaïe 55, verset 10. Et j'aimerais que nous puissions vraiment proclamer ce matin que comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et j'aimerais vous poser la question ce matin, est-ce que vous avez déjà vu des flocons de neige descendre ou des gouttes de pluie descendre et s'arrêter et retourner en fait dans le ciel? Jamais. C'est impossible. Ça n'existe pas. On deviendrait complètement fou de voir ça. Eh bien, l'Éternel est en train de nous dire ça ce matin, de nous rappeler que sa parole, quand il a annoncé, quand il nous promet quelque chose, elle ira toujours frapper la terre pour que ça vienne éclore, germer et pour que ça puisse venir dans nos vies. Et ça, c'est la parole de l'Éternel, c'est sa puissance pour nos vies. Et ce matin, l'Éternel nous dit, ma parole pour votre vie ne fera jamais demi-tour. Elle ne fera jamais demi-tour. Et je veillerai sur ma parole jusqu'à ce qu'elle frappe la terre, jusqu'à ce que ça germe, jusqu'à ce que ça porte du fruit en nous. Amen. Et Dieu dit qu'il veille et exécute sa parole. Alors je regardais, qu'est-ce que ça veut dire veiller? Veiller, ça veut dire prêter une grande attention. Ça veut dire rester attentif et ne pas s'assoupir. Donc quand l'Éternel nous parle à chacun d'entre nous, quand il nous parle dans sa parole, ben, il ne dit pas juste quelque chose et puis après, il ne fait pas ça, non, il veille, il est attentif sur chacune de nos vies, sur chacune de nos saisons, il veille, il est présent au milieu de nous, il est présent et garde nos vies entre ses mains, parce qu'il est veille, parce qu'il est le gardien de nos âmes, parce qu'il est celui qui nous a créés, qui nous chérit le plus au monde, celui qui veut notre salut, notre bien, notre meilleur, il veille et il garantit sa parole. Il garantit sa parole. Donc dans nos temps d'attente, Dieu veille. Nos temps d'attente sont entre les mains de Dieu. Et souvent quand nous sommes dans l'attente, nous pouvons nous sentir rejetés de l'Éternel en disant « Mais qu'est-ce que fait l'Éternel de nos vies? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi est-ce que je ne peux pas enfanter? Pourquoi est-ce que je ne me marie pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le travail que j'ai désiré? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la consolation, la réconciliation? » Mais Dieu est en train d'agir, mais on ne le voit pas. Mais Dieu veille. Et j'aimerais voir avec vous comment Dieu veille sur sa parole. Et finalement, je me suis intéressée à la naissance de Jésus. Parce que je me dis, finalement, nous, aujourd'hui, on passe après Jésus. On sait qu'il est venu, notre foi, le Saint-Esprit l'atteste dans nos vies. Mais alors, ceux qui l'ont annoncé des siècles avant. Et finalement, quand on prend Ésaïe, par exemple, Ésaïe, c'est 800 ans avant Jésus-Christ. 800 ans, 8 siècles qui passent. 800 ans, Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il nous est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » 8 siècles avant, 800 ans avant, une vierge enfantera un fils à qui on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 9, verset 5, Il nous est dit son rôle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 800 ans avant. Et aujourd'hui, que chantons-nous ? Admirable, conseiller, Prince de la paix. Michée dira même le lieu où Jésus va naître. Il nous parlera de Bethléem, toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Pourquoi Jésus est né à Bethléem alors que Joseph et Marie sont de Nazareth? Parce qu'à un moment donné, il y a un édit qui va paraître et on va recenser la population. Et Joseph, avec Marie, qui est déjà enceinte de Jésus, vont tout simplement aller à Bethléem parce que Joseph, qui est issu de la lignée de la maison de David, eh bien, devait être recensé à Bethléem. Et la parole de Dieu nous dit que tout simplement, c'était le temps où Marie devait enfanter et Marie va enfanter à Bethléem. Mais finalement aussi, j'ai réfléchi en me disant, on dit en fait que, et la parole de Dieu nous annonce aussi Jésus, il nous parle de Jésus comme le fils de David. Mais finalement, quand on réfléchit à la vie de David, David, n'est-ce pas celui qui a dû contrer Saül ? N'est-ce pas celui qui était face à la folie meurtrière de son beau-père ? La parole de Dieu nous dit que Saül était jaloux de David et qu'il avait résolu dans son cœur de le faire mourir. David était face à un homme manipulateur qui conspirait contre lui constamment, qui voulait le faire échouer. Et je trouve ça intéressant de se dire que finalement, il y a des hommes et des femmes dans la Bible qui sont de la lignée de Jésus avant que Jésus naisse et vienne au monde et qui ont failli mourir, qui ont fait face à l'épreuve, qui ont fait face à des conspirations meurtrières, folles en fait. Et finalement, Dieu a gardé tout ça. Et finalement, on parle tout le temps de David comme, oui, celui qui était l'homme selon le cœur, qui avait un cœur selon, qui plaisait à Dieu. Mais David, il a eu des temps éprouvants. Il a été appelé jeune, très jeune. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il est monté sur le trône à l'âge de 30 ans. Donc il y a facilement une quinzaine d'années qui s'est passée où il a été sous le coup de la folie meurtrière de Saül, du roi Saül. Où il conspirait contre lui. Il faisait même des manipulations en disant « Mais va battre les Philistins !» Et Saül demandait qu'une chose, c'est qu'il tombe sous l'épée pendant la guerre. Et David a dû fuir comme ça pendant des années et des années, son beau-père et tous ses plans macabres, en fait, pour le tuer. Et David s'en remettait à l'Éternel. Et David, quand vous prenez les psaumes, quand vous allez dans le livre de Samuel, eh bien, vous pouvez regarder, je vous invite à lire chez vous, regardez comment David va se positionner constamment, il va aller devant l'Éternel, il va chercher sa face. Et pour autant, il avait des temps de déprime, des temps d'angoisse, des temps où à un moment il dira « Mais je vais tomber sous la main de Saül ». Et finalement, il revenait tout le temps à l'Éternel, il allait consulter l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit aussi que par deux fois, David aurait pu tuer Saül, il aurait pu mettre la main sur Saül et pour que tout s'arrête, pour qu'enfin celui qui avait envie de le tuer s'arrête et arrête de l'oppresser. Et la parole de Dieu nous dit qu'à chaque fois, David va s'en remettre à l'Éternel en disant « C'est toi qui me délivreras de sa main ». Et peut-être qu'on n'est pas, nous aujourd'hui, face à un roi qui a une folie meurtrière contre nous, mais peut-être que dans tes temps d'attente, eh bien, tu es face à un homme, à une femme qui t'en veut. Peut-être que quelqu'un te veut du mal, que quelqu'un veut te bloquer dans la vie. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans n'importe quel milieu et domaine de notre vie. Parfois, des gens, on ne leur plaît pas, ça ne leur va pas. Notre style de vie, notre manière d'être ne leur convient pas. Et en fait, ils peuvent d'un coup avoir des mauvaises pensées. On peut avoir des mauvaises pensées sur l'un ou sur l'autre. Et on peut avoir envie peut-être de freiner quelqu'un dans ce que Dieu l'amène à faire. Eh bien, j'ai envie de nous rappeler ce matin, de nous encourager en disant rien, 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 rien n'arrête l'œuvre de Dieu. Rien n'arrête les promesses de Dieu. Et Dieu veillera sur sa parole jusqu'à ce qu'elle soit exécutée, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans nos vies. Amen. Et je vous invite vraiment chez vous à regarder la vie de David, à prendre comme ça des hommes et des femmes, Joseph, Moïse, et à regarder finalement les temps d'attente qu'ils ont eu entre l'annonce de la promesse, l'attente et l'accomplissement. Et finalement, vous me direz, bah oui, c'est bien, on sait que Dieu veille sur sa parole, mais finalement, qu'en est-il en fait de discerner sa parole? Qu'en est-il de discerner ses promesses? Parce que finalement, c'est peut-être aussi un des éléments qui est compliqué dans les temps d'attente, c'est de se dire, est-ce que Dieu a vraiment dit que? Est-ce que c'est le vraiment? Et là, en fait, comme je disais tout à l'heure, pendant que le temps passe, eh bien, nos cœurs sont labourés. Et finalement, ce qui était du champ des idéaux, des « j'aimerais faire que », eh bien, le temps passe. Et donc là, on va venir dans nos cœurs à se demander en disant, est-ce que ça va bien s'accomplir? Est-ce qu'il y aura bien un vraiment? Et donc, on va rentrer dans des phases de formation, des phases où on apprend à écouter l'Éternel. Et l'Éternel, c'est le plus grand refuge pour nos vies. C'est le plus grand refuge, notamment dans nos temps d'attente. C'est lui qui va nous aider à passer et à traverser ces temps d'attente. Et je vous invite à prendre le psaume 9, versets 10 et 11. Où il nous est dit que l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Et je crois profondément que le Seigneur nous appelle et nous appelle encore en tant qu'Église et en tant qu'individu à le chercher constamment, à être dans son intimité, à créer vraiment ce lien, cet échange où nous savons quand je parle et nous savons quand je ne parle pas, où nous reconnaissons quand ça vient de lui, où nous reconnaissons quand ça vient de notre chair. La parole de Dieu nous dit également dans Jean chapitre 10, versets 14 à 16, et là on voit le niveau d'intimité et de connaissance que nous sommes amenés à avoir avec le Seigneur. Et là c'est Jésus qui dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis ». Et ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus dira « Elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père ». Nous sommes appelés à connaître l'Éternel et à connaître le Seigneur comme la relation entre Jésus et le Père. Et Jésus savait tout ce qu'il devait faire de la part de Dieu, tout ce qu'il devait prononcer, toutes ses paroles, ses faits et gestes. Il savait ce qu'il devait faire et il connaissait parfaitement le Père. Et ce matin, j'aimerais nous encourager parce que Jésus dit « Elles me connaissent comme moi je connais le Père et comme le Père me connaît ». Nous sommes appelés à rentrer dans cette intimité et cet échange comme Jésus avec le Père. Et dernièrement et depuis le début d'année, l'Éternel nous encourage à dire « Mais cherchez ma face, priez-moi que nous soyons une église qui prie, que nous prions pour nos vies, pour la vie de nos frères et sœurs. » Je crois ardemment que c'est le cœur de l'Éternel pour chacun d'entre nous, que nous connaissions ces temps de face à face. Et que là où il y avait du doute, là où il y avait de l'angoisse, là où il y avait la honte, là où il y avait l'opprobre, eh bien tout ça soit brisé parce que nous serons dans la présence de l'Éternel avec des certitudes qui germeront pour nos vies. Amen. Maintenant c'est vrai, je ne veux pas idéaliser, même ces temps de face à face, ces temps de recherche, eh bien du temps passe aussi dans ces temps où on cherche la face de Dieu. Des années parfois passent jusqu'à obtenir la promesse de savoir qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour nos vies. Et nous nous heurtons aussi parfois au silence de Dieu. Il y a des temps de silence, des temps où Dieu annonce les choses, des temps où Dieu parle et puis d'un coup, hop, d'un coup pendant des semaines, des mois, plus rien, puis d'un coup, hop, l'Éternel peut de nouveau encourager, parler et d'un coup on voit les temps qui se hâtent et Dieu accomplit son œuvre. Et ça, on ne le maîtrise pas, on ne maîtrise pas. Il y a la souveraineté de Dieu et du temps, mais Dieu a le temps entre ses mains. Dieu veille sur chacune de nos vies. Amen. Et vous savez, quand... Alors, je vous reviens, je sais que je reviens souvent sur le temps d'attente par rapport à Julia, mais ça nous a tellement marqués. Mais je me souviens la première fois où Dieu va me parler de cœur à cœur, en face à face. Dieu me parlait au travers d'autres personnes, mais la première fois où Dieu va me parler au travers d'un songe personnellement, il va s'écouler 2 ans. 2 ans pendant lesquels je vais demander à Dieu en me disant, mais parle-moi à moi aussi, personnellement. 2 ans. Et quand on emploie le mot deux, finalement, ça fait juste un, deux. C'est pas grand-chose, finalement. Mais on se dit, bah, c'est 365 jours fois deux. Donc ça fait déjà un peu plus. Ça fait déjà plus de chiffres. Ça fait déjà plus. Si je devais les mettre en heures, si je devais les mettre en minutes, tout de suite, ça augmente. J'avais calculé, ça faisait 17 000 heures, un peu plus. Tout de suite, ça augmente. Mais c'est comme ça, en fait. Et nous, on prend les textes de la Bible. Et en fait, j'ai aussi chronométré, je me suis amusée comme ça cette semaine. J'ai pris l'histoire d'Abraham. Abraham, quand on commence à nous raconter qui il est, d'où il vient, et quand je lui dis, voilà, va dans tel endroit, il a 75 ans. Et après, on arrive, on lit les textes, et on va en fait jusqu'au passage où là, on sait, voilà, Dieu lui dit clairement, au temps prochain, enfin dans la même année, enfin l'année prochaine, eh bien, tu enfanteras, et c'est Sarah qui te donnera un fils. Il se passe 25 ans, puisque Abraham aura 100 ans quand ils vont avoir Isaac. Je lis ça, je me suis chronométrée, je mets 27 minutes à lire. Mais je lis 27 minutes, en 27 minutes, 25 ans d'un homme. Voyez les contrastes. Parfois, nous, on lit, on est là, on dit, ok, donc là, ok, Dieu lui a parlé autant de fois, il lui a raconté ça, il s'est passé ça dans sa vie, puis hop, en 27 minutes, c'est fait, tac, c'est bouclé. Mais c'est 25 ans. C'est 25 ans d'attente, 25 ans où pendant les temps d'attente, en plus, il va être confronté, lui aussi, à d'autres épreuves comme nous, dans nos temps d'attente. On attend quelque chose de la part de l'Éternel et en même temps, on doit être sur le front pour ça. On doit être là, on doit être là, on doit faire ça. Et il y a encore telle épreuve qui vient, il y a encore telle épreuve qui se rajoute. Des moments aussi heureux, bien sûr. Et c'est ça, notre vie. Mais nous, quand on lit la Bible, ça va vite, puisqu'en fait, on a en plus le début, la fin. On sait déjà, en fait, en plus, comme on a entendu plein de fois les histoires, on sait quel est le dénouement heureux. Donc, ça va vite. Mais en fait, il y a toute une progression. Et le temps passe pour Abraham, 25 ans, 25 ans d'attente. Et finalement, tous ces temps comme ça d'attente vont faire que nous allons nous tourner vers l'Éternel, vont faire que finalement, l'Éternel va être un refuge pour nos vies, mais l'Éternel va devenir notre manne, notre nourriture au quotidien, pour le chercher, le chercher, le chercher, le trouver ardemment. Et finalement, dans nos temps d'intimité, eh bien, on va obtenir une connaissance de l'Éternel comme on ne l'avait jamais connue auparavant. On va obtenir des certitudes sur qui est Dieu et on peut obtenir des promesses. Alors oui, bien sûr, aussi avec des temps de silence et des temps aussi où on ne sait pas toujours tout ce que Dieu veut pour nos vies. Mais je suis convaincue que les grandes lignes de nos vies, Dieu nous les révèle. Parce que nous sommes ses brebis, parce que nous sommes ses enfants. Et Dieu, il prend soin de chacun de nous, il veille sur chacun de nos pas. Amen. Et le chercher, le louer, être dans sa présence, eh bien, il va y avoir l'œuvre de la foi. La foi ne se fabrique pas. La foi, ce n'est pas juste dire des paroles positives le dimanche matin. Je pense qu'on le fait tous. Et après, le quotidien vient, l'épreuve vient, l'attente est toujours là. Et finalement, c'est quoi la certitude dans nos cœurs? Quelle est la certitude de ce que Dieu veut faire dans nos vies, au quotidien? Et à un moment donné, je pense qu'on arrive tellement à saturation dans la présence de l'Éternel qu'on est capable de dire avec certitude quand l'Éternel se révèle dans nos vies, quand il se manifeste ce que Dieu veut pour nos vies. Et vous savez, à un moment donné de ma vie, Dieu m'a posé cette question et je n'étais pas encore enceinte de Julia, donc je n'étais pas encore sortie de l'épreuve. Et l'Éternel va me poser cette question en me disant, est-ce que tu acceptes l'épreuve par laquelle tu passes et par laquelle tu es passée? Et en fait, je vais répondre ça à l'Éternel. Je vais dire, honnêtement, je souhaite à personne de vivre ce genre d'épreuve, l'attente, les deuils, etc. Mais je vais lui dire ça, je vais lui dire, mais par contre, pour la connaissance que j'ai de toi aujourd'hui, alors je dis amen à ce que j'ai vécu. Non pas que je suis maso et que j'aime souffrir, je suis comme vous. Par contre, je me disais, pour la connaissance, la manière dont j'ai rencontré Dieu, la manière dont Dieu s'est révélé à moi, alors je lui ai dit oui, je dis amen à ça. Mais je n'étais pas encore sortie de l'épreuve et pour moi c'est important de le dire parce que c'est très facile et je sais de parler de tout ça quand on sort de l'épreuve. C'est facile d'avoir le sourire et de dire Dieu est bon. Mais c'est moins facile de le dire quand on est en plein dedans, quand il y a le brouillard, quand il y a la confusion et quand on est en train d'attendre la promesse de l'Éternel. Mais au moment où j'ai dit ça, ben j'ai senti comme quelque chose se dénouer en moi, en fait, comme quelque chose m'alléger en fait, sur mon chemin et vraiment être fortifiée par l'Éternel. Parce que je savais qui j'avais rencontré. J'avais rencontré l'Éternel miséricordieux qui console au-delà de ce que je pouvais imaginer. L'Éternel qui est fidèle au-delà de ce que je pouvais imaginer. Amen. Et alors la foi grandit parce qu'on a la certitude. On a la certitude et c'est plus juste des idéaux et juste plus lire finalement ce que la Bible dit, mais c'est vivre ce que la Bible dit de l'Éternel. Et la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains 10, verset 17 nous dira aussi « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Notre temps personnel avec le Seigneur, c'est ça qui vient nourrir notre foi. C'est ça qui vient nous donner le don de la foi dans l'attente. C'est ça qui vient nous donner des certitudes et rien d'autre. Et il faut apprendre à discerner ce qui est une parole juste d'encouragement et la parole qui vient réellement de l'Éternel. Et je trouve ça tellement important et dernièrement, j'ai même remercié le Seigneur pour ça. En fait, j'avais fait un rêve et je voyais un mois qui était noté et dans ce mois, il devait se passer quelque chose. Mais je disais à Dieu, quand je me suis réveillée, je me disais, j'ai l'impression que c'est vraiment plus un rêve qu'un songe. J'avais vraiment ce sentiment-là. Et j'ai dit à Dieu, en fait, si ça vient de toi, ça se passera. Si ça ne vient pas de toi, je sais que c'est vraiment juste un rêve. Et finalement, la chose ne s'est pas passée. Et j'ai dit à Dieu, merci, parce qu'en fait, j'apprends à discerner ta parole. J'apprends à voir quand c'est un rêve, que c'est purement charnel. Et j'apprends à discerner quand ça vient vraiment de Dieu. Et une des choses qui, pour moi, m'a aidée, c'est que, par exemple, quand Dieu me parle la nuit, souvent, je sens vraiment sa présence. Je me réveille, et je suis vraiment, en fait, remplie de sa présence. Et là, je m'étais réveillée. J'avais un rêve qui était clair, avec un mois précis, un événement précis, mais il n'y avait pas ce truc. Et donc, je me dis, je vais le peser devant Dieu. Et ça ne s'est pas passé. Et je me suis dit, Dieu, tu n'es pas venu, tu n'as pas accompli. C'est non. Élise, c'était ta chair. Et on doit admettre parfois et reconnaître que c'est notre chair qui parle et que ce n'est pas forcément Dieu. Et ça, on l'apprend au pied de Jésus. On l'apprend dans la parole. Quand la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous rend intelligents, que c'est par sa parole que nous sommes intelligents, que nous recevons le discernement. Amen. Et j'aimerais aussi nous encourager à nous qui sommes autour des personnes qui sont dans l'attente à faire attention aux paroles que nous disons et à encourager à dire que c'est un encouragement et quand c'est la parole de l'Éternel, à dire effectivement que c'est la parole de l'Éternel. Et finalement, on doit faire attention à ne pas nous bercer d'illusions et pour ne pas être après dans la désillusion. Et je rêverais honnêtement pour certaines personnes pouvoir prendre mon téléphone en pleine nuit en disant « Voilà ce que l'Éternel m'a dit pour toi, ce sera à telle date, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. » Mais oh, que Dieu me garde et que Dieu nous garde de dire des paroles finalement qui seraient que des encouragements. Mais nous-mêmes, nous n'avons même pas la certitude que ça vient de Dieu. Oui, Dieu est bon, mais comment dire à une femme ou à un homme « Mais tu auras ton enfant à telle date si ça ne vient pas de Dieu ?» Comment dire « Tu vas épouser à ce moment-là si ça ne vient pas de Dieu ?» Comment ne pas dire que les temps se hâtent si ça ne vient pas de Dieu? Et on doit faire attention à ça. Et un jour, j'ai été confrontée à ces paroles-là en disant, pour ma vie, il y avait des choses que Dieu disait, des temps de silence et des temps où Dieu disait clairement à telle date, comme pour Jess, c'était à telle date. Une dame avait reçu cette parole en disant qu'avant la fin de l'année, une sœur de l'Église avait reçu ça avant la fin de l'année 2018, tu seras enceinte. Et moi, bah, j'avais les pétoches en me disant, j'avais le sentiment de me dire, bah, je fais quoi maintenant? J'ai l'impression que le moindre faux pas me serait fatal sur la parole. Et finalement, en fait, l'Éternel m'a dit, si ça vient de moi, ça se passera. Si ça vient pas de moi, ça se passera pas. Toi, tu fais ce que tu as à faire, tu m'obéis, tu fais ce qu'il faut, tu vis ta vie de disciple, mais si ça vient de moi, ça se passera. C'était une parole qui venait de l'Éternel et ça s'est passé. Mais il y a des personnes parfois qui sont venues me voir avec des paroles et qui, honnêtement, j'ai examiné, j'ai pesé et ça venait pas de Dieu. Et même au tout début de l'épreuve, les gens me disaient, mais tu vas vite tomber enceinte. Mais moi, Dieu m'avait averti du temps d'épreuve. Il m'avait averti du temps d'épreuve. Je me souviens, c'était quand on ouvrait Arras. Et j'avais été honnêtement visitée dans l'esprit quand on ouvrait Arras. Et c'était Anto qui avait reçu une parole en disant, voilà, toutes les personnes qui ont des stérilités, même dans le ministère, etc. Et moi, j'étais visitée à ce moment-là. Et je parle en langue. Et j'ai mon interprétation, l'interprétation du parler en langue. Et ce que je reçois, c'est... Je vais te servir, l'Éternel, dans la douleur de l'enfantement. Je savais que je serais éprouvée j'étais déjà éprouvée, mais je savais clairement qu'il y avait un temps marqué d'épreuve dans l'enfantement. Et en même temps, des personnes venaient me voir parfois en me disant, mais tu vas vite enfanter. Mais honnêtement, non, je savais que ce n'était pas à ce moment-là. Mais après, Dieu a hâté les choses. Dieu a dit des choses. Et tout ce qu'il a dit et tout ce qui venait de lui s'est réellement réalisé. Mais tout ce qui ne venait pas de lui ne s'est pas réalisé. Et parfois, on doit faire attention aussi quand les gens sont dans l'attente. Et je le dis aussi pour moi, c'est que bah, parfois, on peut leur faire croire qu'ils sont en retard, en fait, dans leur vie. Et un jour, j'ai vécu ça, mais sur le temps, sur un plan purement, finalement, matériel. Mais ça m'a vraiment parlé sur le plan spirituel. J'avais un rendez-vous sur l'île, un rendez-vous professionnel pour présenter le métier que je faisais à l'époque. Et en fait, j'ai ma boss qui m'appelle et qui me dit, je vais être je sais plus, à 10 h en plein cœur de l'île, et qui me dit en fait bah, qu'elle, elle est déjà arrivée. Mais en fait, elle était arrivée super tôt. Mais moi, son appel, ça va me stresser en me disant, bah, mince, Élise, t'as pas aussi anticipé, tu t'es pas assez organisée, t'es en retard. Donc, je vais prendre la route, stressée, etc. Je vais arriver sur l'île et en fait, persuadée que j'étais en retard, je vais faire une succession de bêtises. Je vais me garer à un endroit où il ne faut pas. Je vois avec ma voiture, je suis dans le parking, je me dis, elle ne va pas passer. Mais comme je me dis que je suis en retard, il faut que je me gare vite. Donc, je la rentre dans la place et là, ça grince les deux côtés. Les deux côtés à arracher. Après, il faut la sortir, la voiture, parce que ben, je rentre à peine entre deux poteaux. Faut que je la sorte. Donc je la sors et là, ça grince à nouveau. Et là, j'arrache les deux côtés à nouveau. Après, finalement, je prends une place qui est mieux pour ma voiture. Et qu'est-ce que je fais? Je me dépêche, je suis à Lille. Bah, comme c'est une représentation, j'étais bien habillée, la working girl qui met sa petite robe, etc. Et là, il faut que je prenne les escalators. Mais comme je suis en retard et comme en plus je viens de bousiller ma voiture de chaque côté, qu'est-ce que je fais? Je prends l'escalator. À l'envers, ça m'est arrivé à Euralille de prendre le mauvais escalator. Et donc je suis là et finalement, au lieu de monter, je suis en train de descendre. C'est marrant sur le plan matériel, sur le plan du quotidien. Je m'étais dit que je ne le dirais jamais. Un jour, je l'ai dit en repas de famille, tout le monde a ri. Je me dis, bon, il faut savoir rire de soi-même aussi dans la vie. Mais ça m'est arrivé de prendre un escalator à l'envers. Et je l'ai pris à l'envers. Pourquoi? Parce que j'étais sous pression, parce que j'étais stressée, parce que je croyais que j'étais en retard. Et sur le plan spirituel et sous le plan d'attente du mari, quand on attend son épouse, son époux, etc., eh bien parfois, parce qu'on aura une pression sur nous, on peut faire des mauvais choix. On peut se garer où ça va faire mal, ça va arracher de chaque côté, on peut prendre des chemins à l'envers. Il faut faire donc attention aux raccourcis, au jugement et au raisonnement. Et j'aimerais finir en nous encourageant ce matin, en se disant que pendant les temps d'attente, Dieu veille. Dieu veille sur nos vies, sur les promesses qu'il a pour nous. Et Dieu nous demande d'aller avec la force que nous avons pour chacun d'entre nous. Dieu dira ça à Gédéon, va avec la force que tu as. Et nous avons chacun nos aptitudes, notre force à être et à faire face à l'épreuve, à faire ce que Dieu nous demande d'accomplir. Et dans Philippiens 2, verset 13, il est dit que Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Il nous rend capable de réaliser ce qui est conforme à son plan. Et il nous rend capable de tenir bon dans l'attente aussi. Il fait selon son bon plaisir. Il produit en nous le vouloir et le faire. Il est dit dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Finalement, tout ce que notre main a à faire, nous sommes amenés à le faire. Et c'est vrai, notre chair souffre quand on doit. Dieu nous demande d'accomplir des choses, quand il nous demande de jeûner, de prier, de continuer notre vie de disciple, alors que l'époux, l'épouse, l'enfant, le travail, la maladie est là, les divisions nous guettent. Eh bien, c'est éprouvant et la chair souffre. Mais l'Éternel nous dit qu'il renouvelle nos forces et que nous sommes capables de prendre notre vol comme l'aigle. Et finalement, n'avons-nous pas tous déjà vécu ces temps où on se sent tellement faible? Mais l'Éternel nous dit, et la parole de Dieu nous dit, et Paul dira, eh bien que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Il nous fortifie, il nous relève, il nous fait vraiment cette grâce d'être forts. Et finalement, tous les héros de la foi dont on parle et dont on aime parler, eh bien, ils ont tous vécu ces temps d'attente. Ils ont tous vécu ces temps d'épreuve et ces temps où finalement, eh bien, ils vont devoir être fortifiés. Moïse, Joseph, David, c'était des hommes qui allaient devant l'Éternel et qui se laissaient rassasier de l'Éternel pour pouvoir de nouveau aller et conquérir et accomplir l'œuvre que l'Éternel leur a demandé d'accomplir. Parce que quand on regarde par exemple Abraham, pendant 25 ans, eh bien il va devoir aller en Égypte parce qu'il y aura la famine, il va devoir aller délivrer Lot, il va devoir se séparer dans la paix avec Lot pour leur bétail, etc. Ils étaient tellement bénis, en fait, ils étaient tellement nombreux qu'il fallait qu'ils se mettent chacun, prennent des terres, etc. Quand on voit David, entre le moment où il est appelé, c'est cool d'être appelé jeune, mais après il y a un temps. Et pendant ce temps-là, il va devoir fuir Saül, il va devoir aller dans d'autres villes, il va devoir se réfugier. Donc oui, la chair souffre. Et finalement, en fait, je ne suis pas là ce matin pour enjoliver les temps d'attente. Les temps d'attente sont très frustrants, peuvent être très douloureux. Et la chair, elle est complètement compressée et on meurt à nous-mêmes pendant les temps d'attente. Mais l'Éternel veille, il exécute sa parole. L'Éternel nous donne réellement la force, la force. Et même quand on est dans le presque, même quand on se dit que c'est presque, est-ce que c'est pas encore, bien l'Éternel est là. Et vous pouvez regarder ça avec Jésus et Jean-Baptiste. Je suis interpellée, dernièrement j'ai été interpellée par le fait que Jésus doit arriver. On est dans le presque. Et finalement, eh bien, qui arrive avant Jésus? Jean-Baptiste. Et il plaît à Dieu d'annoncer encore par Jean-Baptiste le ministère de Jésus. Et je dis à Jésus, tu ne pouvais pas amener Jésus tout de suite. D'un côté, tout était déjà là, tout était en place. Et la parole de Dieu nous dit que quand l'ange Gabriel va se manifester pour annoncer la naissance de Jésus, pour lui dire qu'elle sera enceinte, eh ben, l'ange Gabriel lui dira, ta parente Élisabeth, qui est la maman de Jean-Baptiste dans la Bible, est enceinte de 6 mois. Donc Jean-Baptiste et Jésus, en fait, ont une naissance très proche. Il a plu à Dieu qu'il y ait un presque. C'est Jean-Baptiste qui annonce encore Jésus. Et même dans les presque, Dieu est là et il veille et il plaît à Dieu. Il plaît à Dieu de prendre le temps nécessaire pour annoncer, pour faire les choses, pour veiller sur sa parole et pour l'exécuter en son temps. Amen. Et j'aimerais vous dire que, en conclusion, que ce message est basé sur 3 songes que le Seigneur m'a donnés. 1 en août, 1 en novembre et 1 en janvier. Celui de août et novembre, l'Éternel va me dire par 2 fois, « Tout vient à point à celui qui sait attendre. » Alors vous me direz, c'est très facile et je vous le reconnais. Je le reconnais, c'est très facile de le dire, mais je vous le dis parce que c'est l'Éternel qui me l'a dit en me disant, « Tu sais attendre. » Quand nous arrivons à attendre et quand nous attendons fermement ses promesses, La promesse viendra et l'Éternel l'exécutera pour chacune de nos vies. Et en janvier, ce que l'Éternel va me dire, je voyais un homme de Dieu qui me disait « Oui, c'est certain, toutes vos saisons sont entre les mains de Dieu. » Et j'aimerais nous dire ce matin que c'est certain. Nos temps de désespoir, nos temps d'attente, nos temps de deuil, nos temps d'épreuve, toutes nos saisons sont entre les mains de Dieu. Et l'Éternel est certain pour nous, pour chacune de nos saisons. Amen. Et j'aimerais ce matin aussi encourager ceux qui sont dans des temps d'attente terribles, parce que je sais que la honte, l'opprobre, le désespoir peut faire rage durant ces temps. Et j'aimerais vous dire ce matin, ayez la tête haute. Parce que le fait que vous soyez dans des temps d'attente qui peuvent être très longs, des temps d'attente de guérison, de miracles, etc., et que vous êtes ici, que vous avez la foi en Dieu, eh bien ce matin, je veux vous honorer. Et là où vous avez l'opprobre, là où vous avez la honte, là où vous avez ce sentiment de rejet, je prie que ce matin, l'Éternel vienne mettre sur vos vies une huile de guérison, une huile de consolation, que vous puissiez avoir sur vos têtes un diadème, que vous sentiez réellement fils et fille de l'Éternel. Fils et fille de l'Éternel, et vous dire à quel point vous êtes courageux, à quel point nous sommes courageux quand nous sommes défiés par les circonstances, par la maladie, à quel point nous sommes courageux de demeurer dans l'Éternel, dans sa présence, et de chercher sa face pour obtenir sa justice et sa miséricorde. Et nous pouvons lever la tête, parce que Dieu nous regarde avec amour, et il intervient avec amour dans nos vies. Et il transforme la vallée de Baca, la vallée des pleurs, en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant leur marche. Et j'aimerais, pendant juste 5 minutes, si l'équipe de louange peut revenir, qu'on puisse prendre un temps pour appeler les choses qui ne sont pas. Ce que l'Éternel nous a promis, ce que l'Éternel vous a promis. Eh bien, que nous puissions l'appeler et que durant ce temps de présence où l'Éternel est là parmi nous, que la foi puisse augmenter dans nos vies, que la consolation puisse augmenter dans nos vies, que les certitudes puissent germer dans nos vies, que le bras de l'Éternel se manifeste dans chacune des vies. Et je veux vraiment appeler par la foi toutes ces promesses, tous ces temps, appeler vraiment ces certitudes à germer dans nos cœurs, afin d'être des hommes et des femmes de l'Éternel qui sont remplis de cette force et de cette connaissance de Dieu pour affronter les temps d'attente. Amen.